Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du jeudi 5 décembre 2024. En Guinée, le premier ministre Bahouri accuse arbitrage et mal gouvernance sur les incidents de Nzérékoré. Au Togo, les sénatoriales ont été fixées au 2 février prochain. En Namibie, la première présidente élue dit avoir brisé le plafond de verre.
Maintenant qu'elle est au pouvoir, elle pourra mettre en place des réformes nécessaires pour approfondir la démocratie en Namibie et surtout pour faire en sorte que les femmes et les jeunes en particulier puissent bénéficier de son accession au pouvoir.
Achille Mbembe, politologue, va nous éclairer sur le parcours de Netundo Nandi Indetoua dans la partie magazine. En Syrie, après Alep, la ville clé de Hama tombe aux mains des rebelles. En France, le président Emmanuel Macron a pris acte de la démission du premier ministre Michel Barnier et s'adressera à ses compatriotes à 19h GMT. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le chef du gouvernement guinéen, dominé par les militaires, a incriminé aujourd'hui l'arbitrage et la malgouvernance dans la bousculade qui a causé la mort de dizaines de supporters dans un stade de football et a réfuté toute intention de dissimuler le nombre véritable de victimes. Les précisions de John Lydon.
Pour le chef du gouvernement guinéen, la responsabilité d'un arbitrage qui n'est pas du tout aux normes a été le facteur déclencheur. C'était le début d'un engrenage tragique que nous payons chèrement et en plus dans un stade qui n'est pas aux normes, a-t-il dit. Le premier ministre Bahouri dit aussi que la Guinée paie chèrement les années de malgouvernance que le pays a connues et dans les domaines les plus variés. Le premier ministre a refusé de confirmer qu'un des ministres était intervenu directement auprès de l'arbitre pour faire annuler une expulsion, ce qui pourrait avoir contribué à échauffer les esprits. Il s'est retranché derrière les conclusions futures d'une commission d'enquête. Interrogé sur l'emploi de lacrymogène dans une enceinte close, il a invoqué la bêtise humaine, la fatalité, parfois l'incompétence, dans une ambiance de surexcitation et aussi d'impréparation. Des dizaines de personnes sont mortes dimanche dans un stade de Nzérékoré, dans un mouvement de foule provoqué, selon de nombreux témoignages, par des protestations contre des décisions arbitrales, un envahissement du terrain et l'intervention des forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène.
Deux gendarmes ivoiriens interpellés en septembre 2023 au Burkina Faso voisin, dans un contexte de tension entre les deux pays, sont de retour en Côte d'Ivoire, a annoncé aujourd'hui à Abidjan le porte-parole du gouvernement. Cette remise a été effectuée le 29 novembre grâce à une médiation de la République togolaise, a dit le porte-parole du gouvernement ivoirien, précisant que l'implication personnelle du président Faure Gnassingbé a permis le dénouement heureux de cette situation. Les premières élections sénatoriales au Togo auront lieu le 2 février. C'est l'une des dernières étapes de la mise en place de la nouvelle constitution. Alexandrine Ologon.
Le gouvernement a fait l'annonce dans un communiqué daté de mardi et publié ce jeudi sur le site internet de la République togolaise. La campagne va s'étendre du vendredi 17 janvier 2025 au vendredi 31 janvier 2025. La nouvelle constitution, définitivement adoptée en avril, abolit l'élection du chef de l'État au suffrage universel et institue un régime parlementaire. La fonction de président de la République sera purement honorifique, tandis que l'exercice effectif du pouvoir sera assuré par un président du Conseil qui doit être automatiquement le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Cette refonte est dénoncée par l'opposition et la société civile qui y voient un stratagème de l'actuel président Faure Gnassingbé pour se maintenir indéfiniment au pouvoir. Actuellement, Faure Gnassingbé est le président du parti majoritaire UNIR qui a raflé 108 des 113 sièges de députés lors des législatives d'avril. Le Sénat a été institué par la révision constitutionnelle de 2002 au Togo, mais n'a jamais été mis en place jusque-là.
Le trafic des marchandises transportées du Cameroun en Centrafrique a commencé à reprendre ce jeudi, après des accords passés entre les deux pays pour mettre fin à une grève lancée mi-novembre par les routiers camerounais. Le ministère camerounais des Transports a annoncé mercredi la levée du blocage du trafic sur le corridor Douala-Bangui, reliant le grand port camerounais et la capitale centrafricaine, dans un communiqué signé par les ministres des deux pays, par des syndicats camerounais, de patrons et d'employés du secteur. Amnesty International demande la libération immédiate de 7 membres de l'opposition rwandaise et d'un journaliste jugé ce jeudi pour avoir cherché à discréditer le gouvernement. Les accusés arrêtés fin 2021 sont poursuivis pour formation d'une entreprise criminelle et conspiration en vue de créer des troubles. La République démocratique du Congo est en alerte maximale après la détection d'une mystérieuse maladie qui a déjà fait des dizaines de morts et en un peu plus d'un mois, selon les dernières estimations, a déclaré ce jeudi le ministre congolais de la Santé. Le phénomène décrit par les autorités sanitaires comme un événement de santé publique inconnu est pour l'instant localisé dans la région de Panzi, à quelques 700 km au sud-est de Kinshasa. Les premiers cas ont été détectés fin octobre.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En France, le président Emmanuel Macron a pris acte aujourd'hui de la démission de son premier ministre, Michel Barnier, au lendemain d'une censure historique. Le chef de l'État français menait des consultations avant de s'adresser à ses compatriotes dans la soirée. Jacques Aristide.
Michel Barnier est désormais le chef du gouvernement le plus éphémère de la Ve République après avoir été censuré par une majorité de députés 3 mois seulement après sa prise de fonction. Il a été reçu pendant 1 heure à l'Élysée ce matin. Le président Emmanuel Macron a pris acte de la démission de son premier ministre, indique l'Élysée, qui ajoute que Michel Barnier assure avec son équipe le traitement des affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement. La France se retrouve donc une nouvelle fois sans gouvernement, dans un contexte budgétaire alarmant, mais aussi dans un climat de crise politique déclenché par la dissolution choc décidée par Emmanuel Macron de l'Assemblée nationale en juin dernier, dissolution qui a provoqué des législatives anticipées ayant abouti à une Assemblée fragmentée en 3 blocs sans majorité absolue. Quand sera nommé le successeur de Michel Barnier, de nombreuses voix exhortent le chef de l'État à le faire rapidement pour, disent-elles, éviter que la France s'enfonce davantage dans le chaos et l'incertitude.
En Corée du Sud, le président conservateur Yoon Suk-yeol s'accroche au pouvoir ce jeudi. Son parti s'opposa à la motion de destitution qui doit être mise au vote samedi au Parlement après la tentative ratée du chef de l'État d'imposer la loi martiale dans le pays. 6 partis d'opposition ont déposé hier une motion de destitution accusant le dirigeant d'avoir gravement violé la constitution et la loi. Le président, très impopulaire, devra aussi faire face à une enquête policière pour rébellion, a annoncé la police sud-coréenne ce jeudi. En Syrie, les rebelles ont pris jeudi la ville stratégique de Hama. 4 jours après s'être emparé d'une grande partie de la ville d'Alep, le pouvoir de Bachar al-Assad apparaît de plus en plus fragilisé par l'offensive fulgurante des insurgés. Rosine Monizero.
Les rebelles sont entrés dans plusieurs quartiers de Hama et des combats les ont opposés aux forces du régime, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'armée syrienne a reconnu avoir perdu le contrôle de Hama. Au cours des dernières heures, les groupes terroristes ont pu percer plusieurs fronts dans la ville et y entrer, a-t-elle affirmé dans un communiqué, ajoutant que ses forces s'étaient redéployées hors de la ville. Située au sud d'Alep, la 2e ville du pays en guerre, Hama commande la route vers Homs, plus au sud et vers la capitale Damas, deux grandes villes encore aux mains du pouvoir. À la surprise générale, les rebelles amenés par les islamistes extrémistes de Hayat Tahrir al-Sham ont lancé le 27 novembre une offensive à partir de leur bastion d'Idleb dans le nord-ouest, s'emparant en une semaine de dizaines de localités. La Russie, alliée de la Syrie, a lancé des raids aériens sur les secteurs rebelles en soutien aux forces gouvernementales.
La section israélienne d'Amnesty International conteste les accusations de génocide par Israël dans la bande de Gaza formulées par l'organisation mère appelant à enquêter sur des crimes graves. La position d'Amnesty International n'est pas celle d'Amnesty Israël, a réagi sur son site cette dernière, ajoutant qu'elle n'accepte pas l'accusation selon laquelle Israël commet un génocide sur la base des informations dont elle dispose, mais se dit préoccupée par le fait que des crimes graves ont été commis à Gaza et juge que ceux-ci doivent faire l'objet d'une enquête. Et puis la police new-yorkaise recherche toujours activement ce jeudi le suspect qui a abattu par balle la veille le patron du premier assureur santé aux États-Unis en plein cœur du quartier d'affaires de Manhattan. Et en l'absence d'arrestation, les spéculations vont bon train sur le tireur qui aurait cherché à se venger. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Eric Manirakiza.
Le déficit des comptes courants de l'Afrique du Sud est resté globalement inchangé entre le deuxième et troisième trimestre de cette année, s'établissant à 1% du produit intérieur brut PIB, selon les données de la Banque centrale publiées jeudi. L'excédent commercial s'est légèrement réduit, la valeur des biens exportés ayant diminué plus que celle des importations. La volonté du président élu Donald Trump d'imposer des droits de douane sur l'ensemble des produits entrant aux États-Unis inquiète fortement les importateurs de vin et les restaurateurs qui espèrent pouvoir profiter d'exceptions permettant de protéger les petites entreprises. Dans l'immédiat, les professionnels du vin aux États-Unis préfèrent attendre d'en savoir plus sur les intentions réelles du président élu. Le Bitcoin a franchi jeudi pour la toute première fois la barre des 100 000 $ un mois après l'élection aux États-Unis de Donald Trump, fervent promoteur des crypto-monnaies. Après avoir qualifié les crypto-monnaies d'escroquerie durant son premier mandat, Donald Trump jure désormais qu'il fera des États-Unis la capitale mondiale du Bitcoin et des crypto-monnaies. Le Bitcoin, qui oscillait autour de 69 000 $ le 5 novembre, jour de l'élection, a gonflé de plus de 46% depuis.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Tirage au sort ce jeudi du Mondial des clubs.
Oui, c'est ce soir à Miami, ici aux États-Unis. L'idée de cette épreuve quadriennale est portée depuis plusieurs années par le patron de la FIFA, Gianni Infantino. Le plateau est désormais complet pour le tirage au sort depuis le sacre des Brésiliens de Botafogo en Copa Libertadores samedi et comprend 32 équipes, 12 européennes, 6 sud-américaines, 4 africaines, asiatiques et nord-américaines. Une venue d'Océanie et l'Inter Miami du pays hôte. L'Afrique sera représentée à ce mondial des clubs par Al Ahly d'Égypte, le Wydad Casablanca du Maroc, l'Espérance Sportive de Tunis et le Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. La compétition aura lieu du 15 juin au 13 juillet 2025.
On connaît les affiches des demi-finales de la CAN féminine de handball qui se joue à Kinshasa en RDC.
Les quarts de finale de cette CAN féminine de handball ont livré leur verdict hier. La Tunisie fera face au Sénégal en demi-finale. L'Angola va affronter l'Égypte. Ces demi-finales se disputent demain vendredi et la finale samedi. Analyse sur place à Kinshasa avec Papi Katassi, journaliste sportif.
L'Angola, Égypte et Tunisie, Sénégal, une affiche de demi-finale de la Coupe d'Afrique handball très équilibrée. L'Angola qui confirme qu'il est vraiment l'ogre africain avec une 18e finale de suite et une 18e qualification pour les mondiales aux Pays-Bas et en Allemagne fin de l'année 2025. Face à l'Algérie, c'est avec une facilité déconcertante que la bande Almerie Albertine Akasso Madakouz est passée au carré d'as, corroborant ainsi son parcours sans faute depuis le début de cette compétition. Bon, les Sénégal, demi-finalistes lors de la dernière CAN en 2022, naturellement se retrouvent au dernier carré de cette compétition, grâce surtout à Soukeina Sagna, qui a été la révélation du côté des Lions de la Teranga, et bien sûr sa gardienne Justicia Elbe Katubisa, qui a fait un match plein face au Cameroun en quart de finale. La Tunisie, qui court derrière un quatrième titre continental, a disposé du Congo-Brazzaville grâce surtout à demi-centre Achana Sondesh de Brixen Handball en Italie et une très bonne équipe des Aigles du Carthage avec un moral vraiment d'acier.
Papi Katassi, journaliste sportif.
En basketball, accord entre Villeurbanne et la RDC pour détecter des jeunes talents.
Le président de l'ASVEL Lyon-Villeurbanne, Tony Parker, a officialisé la signature d'un accord entre son académie et la République démocratique du Congo visant à détecter et à former les jeunes talents dont les meilleurs pourraient rejoindre l'équipe professionnelle villeurbanaise. Arrivé en décembre dernier à l'ASVEL, l'intérieur congolais Paul Mbia, 19 ans, 2m11, a pu disputer ses premières minutes en Euroleague fin octobre au cours des matchs à Barcelone. Nous espérons que d'autres jeunes congolais auront cette opportunité car il y a des talents incroyables là-bas. C'est ce qu'a confié Tony Parker, évoquant un accord sur 3 ans sans vouloir en préciser les modalités financières. La RDC, par l'intermédiaire d'Invest RDC, va en plus devenir le partenaire principal de l'Académie Tony Parker, visible sur les maillots de l'institution.
Page d'espoir VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VO Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Cameroun, la déclaration des revenus annuels pour les personnes physiques, communément appelée IRPP, entendait l'impôt sur les revenus des personnes physiques, fait jaser plus d'un, particulièrement dans le secteur informel. Les contribuables camerounais, les étrangers résidant au Cameroun et les personnes ayant des activités professionnelles ou non professionnelles ont jusqu'au 9 décembre prochain pour être en règle avec l'administration fiscale, faute de quoi des sanctions pécuniaires, des restrictions d'obtention de visa, de transactions bancaires ou encore d'abonnement aux services d'eau et d'électricité pourraient leur être appliquées. Reportage sur place à Yaoundé avec notre correspondant Emmanuel Jolenta.
Selon la loi fiscale, le taux d'imposition sur le revenu des personnes physiques est de 5,5% sur tous les revenus perçus au cours d'une année fiscale après un abattement forfaitaire de 500 000 francs CFA. Mouliom Mazou est un fiscaliste.
Il y a un déficit de communication sur cette réintroduction du paiement de l'IRPP par les contribuables camerounais. Il faut dire que ça existe depuis longtemps. Et en 2004, on avait suspendu le recouvrement de cet impôt-là auprès d'une certaine catégorie de population. Et avec l'évolution du temps, nous nous sommes rendus compte que l'administration fiscale a trouvé des moyens plus efficaces de procéder à ce recouvrement.
Il s'agit, selon la Direction générale des impôts, d'une contribution à l'effort collectif qui concerne les Camerounais, dont les revenus proviennent de l'extérieur, les étrangers résidant au Cameroun, tous les salariés, les retraités et commerçants, ainsi que les personnes ayant des revenus même issus des activités agricoles ou du bail. Thierry Lopez, contribuable non professionnel.
Il y a des gens qui sont des milliardaires. Ça ne vaut pas la peine de les mettre en prison, qu'ils donnent un peu de ce qu'ils ont. Ça nous allège un peu la tâche. On sort comme ça pour chercher 1000 francs. Depuis le matin, vous voyez, nous sommes peut-être à 14-15 heures. Moi, je n'ai même pas encore mangé. Mais je dois payer cet impôt-là. Si l'État ne t'aide pas, l'État ne te donne pas, il veut prendre sur quoi?
Les Camerounais, résidant à l'étranger et qui perçoivent des revenus issus de leur investissement dans leur pays d'origine, sont également assujettis au paiement de l'IRPP. Pour Nadine Tchongui, des clarifications s'imposent.
Je suis tombée sur un TikTok ce matin, justement, où les gens qui étaient à l'étranger se demandaient leur employeur qui retient déjà la source là-bas. Comment se font-ils qu'ils vont encore payer? Enfin, moi, je ne sais pas trop.
Louis-Marie Cardeux, économiste et militant du SDF, un parti de l'opposition, ne trouve aucun inconvénient à l'option prise par le gouvernement d'élargir l'assiette fiscale par le paiement de l'IRPP. Toutefois, l'économiste questionne l'utilité publique des impôts collectés au Cameroun.
Le citoyen qui paie l'impôt devrait avoir une compensation à travers les actions publiques. C'est là où le bât blesse dans notre pays. Les gens estiment, dans un pays où, d'une part, le pouvoir d'achat est trop bas, les revenus sont très faibles, les salaires sont trop bas, les gens estiment que, en fait, on ne devrait plus prélever le peu qu'ils ont. L'équation à résoudre dans notre pays est celui de relever le niveau de vie des Camerounais.
Les fiscalistes affirment que le Cameroun est également dans un engrenage mondial de l'uniformisation du système fiscal. Mouliom Mazou est un fiscaliste.
Avec le temps, on sera obligé de payer parce qu'en dehors de ces exigences au niveau national, il y a également une pression internationale sur la nécessité de l'uniformisation du système fiscal.
L'administration fiscale n'envisage pas pour le moment de faire appliquer les sanctions contre les contrevenants. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
La Namibie a élu sa première femme présidente, Netumbo Nandi Ndetoa, 72 ans, issue du parti au pouvoir, dès le premier tour avec 57,31% des suffrages, a annoncé mardi soir la commission électorale de ce pays d'Afrique australe. Pour une analyse, Eddie Sango a joint en Afrique du Sud un expert en relations internationales, Achille Mbembe.
Originaire de Pikine, en banlieue de Dakar, Laila Diakité est étudiante à l'université numérique Cheikh Hamidou Khan. En troisième année d'administration économique et sociale, elle suit pratiquement tous ses cours en ligne. La plupart du temps, elle vient réviser ici, à la médiathèque du CEDEPS, ou Centre départemental d'éducation populaire et sportive de Guédiawaye, qu'elle a connu l'an dernier par le bouche à oreille.
C'est tranquille et on a accès aux ordinateurs. Parfois, quand nos machines sont en panne, je peux venir ici.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Il faut en faire une lecture régionale. Il y a eu des élections en Afrique qui se sont soldées par un recul substantiel de l'ANC. Il y en a eu au Botswana où on a assisté à une alternance au pouvoir dont la signification est tout à fait évidente. Il y en a eu au Mozambique où les choses se sont très mal passées. Le pays est en crise en ce moment. Et donc la Namibie est dans ce cadre-là, disons, un motif de relative satisfaction. D'avoir une femme arrive au pouvoir, c'est vrai qu'elle fait partie du parti qui a régné en Namibie depuis l'indépendance. Mais néanmoins, cela est un pas extrêmement important.
Voilà, vous l'avez dit, une dame a été élue présidente en Namibie, Netumbo Nandi Ndaitwah, mais qui est-elle, en fait?
Mais c'est une dame qui est très connue en Namibie, qui a été dans les cercles du pouvoir depuis très longtemps, qui fait partie de la SWAPO, le parti au pouvoir depuis les indépendances, et qui est connue pour son énergie, son franc-parler, et on l'espère, maintenant qu'elle est au pouvoir, qu'elle pourra mettre en place les réformes nécessaires pour approfondir la démocratie en Namibie, et surtout pour faire en sorte que les femmes et les jeunes en particulier puissent bénéficier de son accession au pouvoir. Et donc, voilà un certain nombre de défis qui se posent à elle dans un pays plutôt, disons, stable et relativement calme.
Et que dites-vous de revendications de l'opposition qui n'accepte pas ces résultats? La SWAPO qui est au pouvoir depuis 1990 a encore gagné les élections.
Et c'est un peu le syndrome des anciens mouvements de libération. C'est le cas en Namibie, évidemment, c'est pas aussi violent qu'au Zimbabwe. C'est le cas au Zimbabwe surtout. C'est le cas, évidemment, au Mozambique. Partout dans ces pays, les mouvements de libération ont eu de la peine à se transformer véritablement en partis politiques démocratiques. Et donc, évidemment, en Namibie, il y a dû y avoir pas des fraudes massives, on l'aurait su. Mais enfin, l'opposition n'a pas tout à fait raison de légitimer les résultats d'une élection qui, au fond, s'est passée de façon relativement...
Achille Mbembe, expert en relations internationales.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Joe Biden a terminé hier sa visite en Angola. Il s'est rendu au port de Lobito, le terminal maritime d'un corridor de redéveloppement ferroviaire soutenu par les États-Unis. Le président Joe Biden a rencontré des travailleurs et s'est entretenu avec des dirigeants sur ce qu'il a appelé le plus grand investissement américain dans un projet ferroviaire en dehors de l'Amérique. Anita Powell de la VOA a voyagé avec le président et a réalisé ce reportage. Le récit est de Yakuba Ouedraogo.
Voici ce qu'a constaté le président Joe Biden qui s'est rendu au port de Lobito dans l'ouest de l'Angola.
Lorsque j'ai lancé ce projet avec nos partenaires du G7 l'année dernière, j'ai dit que notre objectif était de construire un avenir meilleur. Mes amis, l'avenir est là. C'est maintenant. L'avenir est là.
Biden a clôturé sa première et unique visite présidentielle en Afrique en se rendant au port angolais de Lobito, terminus d'une ligne de chemin de fer de 1300 km financé par les États-Unis qui permet d'extraire des minerais essentiels de l'intérieur du continent. Les États-Unis ont investi environ 4 milliards de dollars pour remettre en état les voies ferrées délabrées qui partent de la Zambie, riche en cuivre, traversent le Congo, riche en minerais, et aboutissent au port. Une fois l'ensemble de l'itinéraire achevé, ce qui devrait se produire d'ici la fin de la décennie, le système permettra de passer d'un trajet routier de 45 jours à un trajet ferroviaire de seulement 48 heures. Biden a annoncé que les États-Unis investiraient 600 millions de dollars supplémentaires pour moderniser le rail, développer le corridor et l'agriculture. Bien que ce projet soit modeste par rapport à l'initiative chinoise Belt and Road, le président américain a souligné que son pays cherche à établir un véritable partenariat avec les pays africains.
Les États-Unis comprennent que la manière dont nous investissons en Afrique est tout aussi importante que le montant de nos investissements en Afrique.
Les chefs d'État de la région ont rencontré Biden pour vanter les mérites du projet et tracer la voie à suivre. João Lourenço, président de l'Angola.
Il s'agira d'un pilier du développement économique qui permettra aux petites et moyennes entreprises de participer à la chaîne de valeur commerciale, principalement dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie et de l'exploitation minière, afin d'accroître le commerce et la croissance économique de la région de la SADC et de la région de l'Afrique de l'Est.
Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo.
Le corridor de Lobito est bien plus qu'un axe de transport. C'est une opportunité unique d'intégration régionale, de transformation économique et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens.
Les analystes soutiennent qu'il ne s'agit pas d'une œuvre de charité. Wala Tshabala est un consultant indépendant en politique et stratégie économique.
Du point de vue des États-Unis et de l'Union européenne, c'est comme si nous n'avions pas accès aux minerais essentiels à l'économie verte. Nous resterons à la traîne en termes d'écologisation de l'économie mondiale.
Un haut responsable spécialiste de l'agriculture en Angola a déclaré à la VOA que son pays espère profiter de ce coup de pouce pour exporter un jour des produits de plus grande valeur en franchise de droit vers les États-Unis dans le cadre de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, AGOA. Anderson Geronimo dirige le Bureau des études stratégiques de planification du ministère de l'Agriculture.
Nous sommes aussi très attachés à la promotion de la production interne qui répond efficacement à notre besoin de nourrir notre population et nous permet d'évoluer efficacement vers des opportunités telles que l'AGOA.
Il s'agit là d'un avenir attrayant dont Joe Biden espère qu'il lui survivra.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sous la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon, à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bangui sur 101.7 FM. Clédou FM, Bamako. Golf FM, Cotonou. Alfaïda FM, Kaolack, Sénégal. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.